France Inter.
France Inter. Le 18-20. Christelle Rebière.
Le foot français est-il en train de marquer contre son camp? C'est la crise entre la Ligue et le diffuseur des matchs, la plateforme DAZN, engagée à retransmettre les matchs pour 400 millions d'euros par an jusqu'en 2029. Elle a refusé de payer l'intégralité de son échéance de février de 70 millions d'euros. Elle ne verse que la moitié. DAZN râle contre le piratage massif, mais elle était partie sur un abonnement à 40 euros par mois avant de considérablement baisser son prix. Alors, et vous? Regardez-vous les matchs du championnat de France, et si oui, sur quel support et pour quel spectacle? Est-il vraiment à la hauteur de ce que vous payez? C'est la question du juste prix que l'on pose, du diffuseur, mais aussi celle de la crise du modèle du foot français. Faut-il remettre en cause le modèle économique du foot professionnel dépendant des droits télé et des transferts? Le patron de la Fédération française de football, Philippe Diallo, reconnaît qu'on est en fin de cycle. La Ligue de foot a décidé, en attendant la décision du tribunal de commerce de Paris le 28 février, d'avancer la somme de 35 millions d'euros au club. Elle leur sera versée en fin de semaine. En résumé, le foot français a-t-il les yeux plus gros que le ventre? C'est le téléphone sonne ce soir.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et bonsoir Johan.
Bonsoir.
C'est vous qui débutez cette émission, nous vous écoutons.
Oui, voilà, merci. Moi, j'ai 41 ans, ça fait plus de 35 ans que je fais du football, j'en fais encore même ce soir, et je trouve que l'offre a considérablement diminué en termes de qualité. Avant, il suffisait d'être abonné à une seule chaîne pour pouvoir bénéficier de l'intégralité des matchs français ou européens et les compétitions et également. J'ai bien essayé l'IPTV, la qualité est déplorable, c'est instable, c'est pas quelque chose qui est envisageable pour moi. Mm-hmm. Aujourd'hui, on a une offre...
L'IPTV, je précise, pardon de vous interrompre, mais oui. C'est le piratage, hein.
Voilà, tout à
voilà.
Fait.
Voilà, je referme la parenthèse.
Merci de préciser. Aujourd'hui, on doit écrire sur papier pour savoir quel abonnement on doit prendre pour suivre telle compétition, etc. Quand j'étais plus jeune, une seule chaîne suffisait. Que le Qatar, les USA ou les Saoudiens investissent dans le football français, c'est très bien, mais finalement, on se rend compte que le spectateur est lésé avec des prix exorbitants, une qualité technique de diffusion qui laisse parfois à désirer. Je pense que les dirigeants de la LFP doivent un peu ouvrir les yeux, arrêter de se mentir sur ces droits qu'ils demandent à des tarifs exorbitants. Aucun club français ne mérite de tels montants, il faut être réaliste. Et aujourd'hui, il faudrait trouver un diffuseur honnête, crédible et en capacité technique et financière d'offrir, je pense, le spectacle que les spectateurs attendent tous. Alors j'ai deux questions, si vous le permettez, pour vos invités. Est-ce que pour eux, aujourd'hui, un retour de Canal+, dans les négociations et dans la diffusion, est réaliste?
Oui.
J'imagine que si oui, ça serait peut-être à ses conditions, à lui. Et la deuxième question, ça serait pourquoi le service public ne s'est jamais engagé dans la diffusion du football français? Voilà.
Eh ben, c'est excellent. Ben, on va aller poser tout de suite à nos invités ces questions. En studio avec nous, Nathalie Yanetta, la directrice des sports de Radio France. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir Christelle, bonsoir à tous.
Je salue aussi Pierre Maes, économiste du sport, qui est en direct des locaux de nos confrères d'Issinor. Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Et Nicolas Ksismartov, journaliste au magazine SoFoot, qui est en studio avec nous.
Bonsoir.
Alors, première question de Johan, il a dit beaucoup de choses, hein, Johan.
Il a tout dit.
On peut déjà faire toute l'heure là-dessus. Est-ce que un retour de Canal+ est réaliste? Lequel d'entre vous veut répondre pour commencer? Nicolas?
Ça me semble très compliqué. D'abord, je rappelle qu'il y a un contrat qui court avec DAZN, même s'il y a un conflit pour l'instant entre le diffuseur et la LFP. Il y a un contrat qui court au moins jusqu'à la fin de l'année prochaine, hein, puisque il y a une clause de rupture.
Ensuite, en décembre 2025.
Ensuite, Canal+ le désire-t-il? Parce que Canal+ a du coup, en raison des mauvais coups, des coups un peu par en dessous que lui a fait la LFP, s'est diversifié. Ils ont misé sur la première ligue anglaise, ils ont misé sur la Champions League cette année, qui en fait est devenue un championnat d'Europe des clubs avec cette nouvelle formule. Ils ont le rugby,
la Formule 1,
et ils ont bien sûr une plateforme vidéo. Donc pourquoi ils iraient s'embêter à remettre le nez et de l'argent, qu'ils n'ont peut-être pas d'ailleurs, si on en croit les ambitions financières de la LFP, dans la Ligue 1? Je doute beaucoup que pour l'instant ça soit faisable. Et après, il y a apparemment, c'est ce qui se dit, hein, comment dirais-je, une espèce de conflit ou de distance qui s'est créé autour de la personne de Vincent Labrune. Je pense que c'est pas forcément aussi catégorique que cela que dès qu'il s'agit de faire des affaires.
Nathalie Yanetta.
C'est à double tranchant le fait d'aller demander à Canal+ de revenir dans le jeu. On y reviendra peut-être, mais il y a eu des erreurs stratégiques majeures qui ont été commises à plusieurs reprises par les dirigeants successifs de la Ligue du football professionnel. Aujourd'hui, le produit il est très très amoché. Nicolas l'a dit, Canal a investi ailleurs. Probablement que Canal aimerait retrouver de la Ligue 1, mais Johan le disait, à ses conditions, et ses conditions, ça va être 200-250 millions, c'est-à-dire qu'on est à l'aune, et au début, en fait, on pense qu'on est au cœur de la crise du football français, je pense qu'on n'en est qu'au début, parce qu'il y a 4-5 ans, lorsque les signaux faibles ont commencé à clignoter, le monde du football a été frappé d'un déni assez spectaculaire qu'on est en train de payer aujourd'hui.
Est-ce qu'on est au début de la crise, Pierre Maes ?
On est dans la crise depuis longtemps, en fait.
Depuis Mediapro ?
Comme le soulignait Nathalie, effectivement, depuis Mediapro, on a l'impression que la Ligue est engagée dans un
même avant Mediapro.
Bon, on refait le match et on va refaire l'histoire pour que tout soit clair pour les gens qui connaissent pas forcément toute l'histoire des droits du foot. Mediapro, au départ, qui veut commencer à raconter l'histoire? Vous, Nathalie, peut-être.
2018, jusqu'ici, les droits sont partagés entre deux diffuseurs, Canal+, donc le diffuseur historique depuis 1984, et beIN Sport, qui était un nouvel entrant dès 2011. 2018, donc, appel d'offres de ce championnat avec 1 milliard 195, très exactement, oui, atteint par la Ligue de football professionnel, ce qui a conduit certains dirigeants à dire que c'était un jour béni pour le football français. C'était donc le début de 7 ans de malheur. En revanche, ils ne le savaient pas encore. Mediapro, qui très vite doit construire une chaîne, a des difficultés pour diffuser, se retrouve au pied du mur, et puis le Covid passe par là, le Covid qui a bon dos, mais on en reparlera aussi, le Covid et l'attitude des dirigeants du football français.
Parce qu'on n'a pas fini la saison.
Parce qu'on n'a pas fini la saison, et ça n'est pas en détail. A servi donc...
Alors que d'autres championnats l'ont
tous
fait.
Tous ont terminé. A servi donc d'excuse à Mediapro pour être défaillant à partir de ce moment-là. Ça a été un peu la panique. Ils ont fait appel à un fonds d'investissement, parce que ce milliard, certains avaient commencé à le dépenser avant même d'avoir touché l'argent. Il fallait donc sauver le soldat Ligue 1. Un fonds d'investissement est arrivé, CVC, avec une clause qui était un peu la clause du siècle pour le fonds d'investissement et non pas pour les clubs de foot. Et depuis, on va de Caribe en Silla, on est à Canossa, et les dirigeants du football français continuent de penser que ce milliard est la valeur de leur championnat, alors qu'en fait, c'est juste le prix qu'ils aimeraient en avoir, mais ce produit ne les vaut pas.
Nicolas Xismartoff.
Oui, moi je crois que... Tout a été dit. Le foot français, son problème structurel, c'est qu'il a mis un prix avant de mettre la qualité et de travailler son produit. C'est un peu ça. Et qu'il imagine, et je crois que Vincent Labrune a dit une formule qu'on n'a pas assez retenue, parce qu'on a été sur les petites phrases, mais il a dit c'est un produit premium. Non, la Ligue 1 n'est pas un produit premium. Le foot est un produit premium. On voit bien que les gens s'abonnent à Canal pour regarder la Champions League, mais la Ligue 1 n'est pas un produit premium parce que rien n'a été fait pour qu'il le devienne. On n'a pas suscité l'envie du consommateur. On n'a pas construit le produit économique. Là, je vais parler, c'est très capitaliste tout ce que je raconte,
mais
on est là-dedans.
Et
on n'a pas respecté les cultures, parce que la culture, ça rapporte de l'argent aussi quand on sait l'utiliser.
Qu'est-ce que vous voulez dire, on n'a pas respecté
les cultures du foot. Regardez le clip vidéo qu'ils ont sorti sur la Farmer League. On a dit le foot français, il est un peu un foot de seconde zone. On n'a jamais su mettre en valeur ce qui était notre histoire, notre football, notre culture. Les clubs avec un fort enracinement n'ont jamais été valorisés comme ils auraient dû l'être. On n'a jamais su écrire une histoire autour du football. Tout ça cumulé, et Pierre Maes l'expliquera beaucoup mieux après moi, s'explique qu'on est depuis longtemps dans une crise de ce point de vue-là, de construction économique. Je mets de côté la dimension sportive. On a une sélection nationale qui a particulièrement brillé. On est un des pays qui exporte le plus de joueurs. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais sur notre championnat domestique, la crise et la dégringolade, elle s'est enclenchée il y a longtemps.
Pierre Maes.
Alors j'entends bien tout ce qui est dit au niveau du produit et je le rejoins en tout cas en partie. En fait, il y a quand même une nuance de taille ici à porter, c'est que le prix des droits TV n'est pas déterminé par le produit ou sa qualité. Le prix des droits TV est déterminé essentiellement à 95% par la concurrence que se livrent les opérateurs pour les acquérir.
Ouais.
Au plus il y a de concurrence, au plus les prix vont monter, les chaînes vont se battre à coups de chèques, à coups de gros chèques. C'est ce qui s'est passé pendant 2 à 3 décennies. Jusque...
À l'époque de Canal+.
Oui, exactement. Et dans les autres pays, c'est exactement la même chose. Le pivot se situe autour de 2018. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans tous les pays principaux d'Europe? Il y a plus de concurrence. Il y a plus de concurrence, donc les prix baissent. On est à peu près dans chacun des pays dans une situation de monopole de la part de l'opérateur principal, comme Sky en Angleterre, comme Canal en France. Et finalement, à ce moment-là, c'est lui qui détermine le prix. Monopole ou duopole, bien souvent, il est accompagné justement de DAZN, comme en Espagne, où l'opérateur dominant, c'est Telefonica, Mobistar, et DAZN de l'autre côté. Donc en fait, ce qu'on constate, plutôt, le produit, c'est important, mais ce qu'on constate plutôt, c'est que les dirigeants de club et les dirigeants de la Ligue sont dans un déni par rapport à cette nouvelle situation. Il y a une nouvelle situation où le rapport de force change. Avant, donc dans les 3 décennies dont j'ai parlé, avant 2018, il suffisait aux dirigeants de Ligue de jeter littéralement les droits sur le marché, avec des appels d'offres très, comment on va dire, très construits par les avocats, et les chaînes se battaient à coups de gros chèques pour les acquérir. Ils n'avaient rien à faire. Ils ouvraient leur mail, ils voyaient des centaines de millions. Aujourd'hui, la situation est totalement différente. Le rapport de force a changé. Et ce qu'on voit, c'est exactement ça aujourd'hui en France. DAZN, DAZN est un remarquable négociateur et très malin, sait que le rapport de force a tourné légèrement à son avantage et en profite. DAZN a déjà...
On profite pour ne pas payer, vous voulez dire ?
Non, en tout cas, on profite pour tenter de mettre son pied dans la porte, oui. pour tenter une renégociation. Mais musclé.
L'idée, c'est ça. Ils ont payé musclé, 400 c'est... millions d'euros par an jusqu'en 2029. Hein. Les 100 millions autres, c'est BIN.
Oui, attendez, ceci est aussi une nuance importante. Les 400 millions, c'est une moyenne sur 5 ans,
ouais.
production comprise. D'accord ? Cette année-ci, ils payent 350 millions, dont 25 millions de production. Donc, cette saison-ci, ils ne payent que 325 millions. Mmh. Et c'est ce montant-là qu'ils entendent renégocier déjà.
Mmh. On va repartir au standard, rejoindre Philippe. Bonsoir Philippe.
Bonsoir.
Nous vous écoutons.
D'abord, je voulais vous remercier pour vos émissions, celles de ce soir et les autres, la qualité de votre écoute et de votre accueil.
Merci.
Moi, j'ai 60 ans, je suis un supporter ordinaire avec mon fils en garde de foot. On soutient le PSG, j'en profite pour les encourager. Mais on est juste des supporters. L'an dernier, on a pris notre abonnement sur la plateforme Amazon sans aucun problème, 15 euros, on était contents. On a pu se payer 2 matchs dans l'année, on était ravis, on a été sur le stade, mais les oubliés, c'est les supporters. Comme cette année, ils nous mettent l'abonnement à 30 euros, c'est évidemment non.
On est parti à 40 euros, hein.
Oui,
passé à 15, là, maintenant. On est à 15. On a bradé en cours de route.
À un moment donné, on a bradé, puis jusqu'à quel prix? On oublie les gens qui payent, les gens qui vont au stade, tout bêtement. Alors, c'est formidable, on a des joueurs talentueux, on les voit partout dans le monde entier, on est ravis, mais nous, on a le plaisir d'aller au stade, de voir une équipe, de vivre les hauts et les bas, parce qu'il y a eu des hauts, il y a eu des bas, puis c'est l'histoire des sports. Et cette histoire, on a envie de la vivre chez soi. Mmh. Et quand en début d'année, on a trouvé une solution IPTV qui fonctionne plus ou moins bien, et qui fonctionne, eh bien, on a le plaisir de voir les matchs tous les deux, pour un prix qu'on peut se payer, et pour une valeur de produit et d'expérience qu'on peut se payer aussi, parce que la qualité n'est quand même, la qualité de l'expérience, de la façon dont les matchs sont filmés, n'est pas non plus extravagante. Si c'était Canal, à la grande
époque... Ils n'ont pas vraiment les droits, en fait.
Bah, écoutez, à eux de se débrouiller, tous ces gens très intelligents qui sont payés pour et qui payent des cabinets d'experts à tous les matières pour analyser les consommateurs, les marchés, les techniques. Enfin, vous savez, je travaille dans une entreprise privée, je sais comment ça se passe. Mmh. On en mange à tous les étages. Et à la fin, les braves couillons, nous on est contents, on se régale de voir des matchs, ceux de notre équipe et les autres, mais on les voit à proportion de nos moyens et la satisfaction qu'on nous donne. On nous donnera un beau produit, on nous donnera une vraie concurrence dans la Ligue avec des clubs qui peuvent venir chatouiller le premier, vraiment et sincèrement, on sera ravis. Et je mettrai 30 euros par mois, j'aurai aucun problème. Mmh. Et pour le produit qu'on nous offre et l'expérience qu'on nous propose, ben je trouve que passer ailleurs, c'est la grève des consommateurs, c'est le seul moyen qu'on a. Et on le prend. Et on n'est pas plus bête que les autres. on sait se servir du système, nous aussi.
C'est voilà. Important ce que dit Nathalie Yaneta. Vous avez 60 ans, c'est ça? Vous êtes donc un abonné historique de Canal+. Oui. Vous avez parlé de Canal de la grande époque. C'était pas seulement retransmettre le football à l'époque, et j'ai appartenu à cette rédaction avec une fierté immense pendant 20 ans. Donc, de l'intérieur, je sais quel était le niveau d'exigence, et Philippe a raison, nous devions donner plus à l'abonné que ce qu'il aurait pu voir ailleurs. Aujourd'hui, les choses ont changé.
Et ça avait révolutionné
évidemment, tout changé. Hein. Et ça a changé la Ligue 1, et la Ligue 1 Absolument. Est devenue ce qu'elle est grâce aux innovations technologiques et à la création aussi de contenu et d'émissions de ce canal d'il y a 20 ou 30 ans. Aujourd'hui, Philippe a raison, beaucoup de choses ont changé, mais il dit, moi je suis prêt à payer 30 euros. Mais si j'ai de la qualité c'est quoi? La qualité c'est donner davantage que l'IPTV par exemple, dont on ne demande pas plus que d'être que le diffuseur de flux d'Azone aujourd'hui, et c'est valable dans les autres pays, c'est une plateforme. Ils vous prennent au coup d'envoi quand ils ne le manquent pas, parce que c'est arrivé sur certains matchs de Ligue 1. À la mi-temps, vous n'avez rien, pas d'analyse, etc. Et puis ils rendent en fin de match. C'est aussi une nouvelle manière de consommer le sport pour des plus jeunes qui n'ont pas et qui vont chercher ailleurs les analyses. Et le plus, il faut aussi s'adapter au monde dans lequel on vit. Mais DAZN a fait une erreur fondamentale sur le marché français. Croire qu'il allait pouvoir avoir 1,5 million d'abonnés avec 40 euros juste en diffusant la Ligue 1 et en ne proposant rien d'autre, c'est de la folie ou de l'incompétence. Je ne sais pas ce qu'il faudrait choisir. Et la Ligue de football professionnel, pardon, elle, bah, c'est pas qu'elle a menti sur le produit, mais à un moment, quand tu vends ton truc beaucoup plus cher que ce que ça vaut, forcément, tu induis un peu en erreur. Donc là, ils sont tous les deux face à face, et la vérité, c'est qu'ils sont aussi responsables l'un que l'autre.
Et aussi embêtés l'un que l'autre, finalement.
Ah bah là, oui.
Et enfin, empêtrés,
plus la Ligue,
je dirais
plus
même
la
empêtrés.
Plus
oui.
la Ligue que DAZN, parce que Pierre l'a dit tout à l'heure, le rapport de force aujourd'hui, il est du côté du diffuseur. Si pas DAZN, qui d'autre?
Qui d'autre? Bah qui d'autre? Tiens, justement, Nicolas Xismartoff.
C'est une bonne question. D'abord, sur le rapport de force, il ne faut pas oublier aussi que les clubs français ont raté la diversification de leurs revenus, ce qui fait qu'ils sont tenus par les droits télé beaucoup plus que dans d'autres pays. Où il y a
beaucoup
eu quand même...
trop.
Beaucoup trop.
Bah, on va y venir.
On va y venir. Il y avait une question tout à l'heure. Moi, je serais extrêmement pour que le service public diffuse le foot en France.
Oui.
Il le fait occasionnellement sur la Coupe de France, cette vénérable institution auquel on est tous très attachés. J'avais écrit un article il y a longtemps quand Amazon a repris.
C'était journaliste à SoFoot.
Voilà, j'avais écrit un article quand Amazon a repris, que j'ai vu les prix qu'il avait mis. Je me dis ouais, finalement, France Télé pourrait le faire et pourrait mettre
au
l'argent.
Au moment de la défaillance des médias, pour le coup, c'était accessible, Nicolas.
C'était
là,
accessible.
C'est pas accessible au
je sais pas, mais,
public.
Mais quelque part, je comprends même pas que de son propre chef, la LFP, dise pas OK, on vous donne un match par semaine diffusé en clair sur que tout le monde puisse voir pour donner envie de nouveau aux Français largement, parce qu'il y a des seuils en fait de rapport au foot. Les vrais passionnés, les supporters, ils sont dans les stades. Les stades sont remplis. Ils y vont parce que c'est une expérience que tu as envie de vivre. Il y a, comme monsieur, ceux qui aiment les clubs, un club ou qui aiment le championnat, qui vont un peu suivre sur les. Mais il y a tous les autres qui aiment le foot, mais qui sont en train de se distancer parce qu'ils le regardent ailleurs. Ils regardent la Champions League, ils vont regarder la Serie A sur l'équipe TV qui diffuse maintenant ce championnat italien qui est remonté en niveau. Il faut avoir quelque part reconquérir les cœurs. Et pour ça, il faudrait du spectacle gratuit, accessible facilement, notamment y compris pour les jeunes. Et cette logique-là me semble mais extraterrestre pour nos amis de la LFP qui pensent, mordicus, qu'ils ont un produit en or et que ça a été très bien expliqué par M. Maes, que les gens vont continuer à se battre jusqu'à la mort pour l'avoir. Effectivement, la logique capitaliste du monopole s'oppose un peu à cette vision idyllique.
On a beaucoup de réactions sur WhatsApp et beaucoup de gens qui nous disent que finalement, ils ne veulent plus regarder parce que ça change tout le temps de diffuseur.
Oui, mais ils ont
on a l'impression que chaque année, ou presque, on rebat les cartes, c'est reparti pour un tour au fait qui va diffuser quoi, à quelle heure, comment.
Et
c'est étalé sur trois jours.
Et DAZN peut encore partir. La fin de la saison prochaine, il y a une clause de sortie.
Mais c'est Philippe qui disait qu'il faut mettre un tableau pour savoir quel match regarder où. Donc, on a un peu autre chose à faire dans la vie.
Et puis tout simplement, il y en a qui sont déçus par le spectacle. On va écouter Florence qui vient de nous envoyer une note vocale.
Je m'appelle Florence et j'habite Fontenay-aux-Roses. Et je voulais juste témoigner du fait que moi j'étais une grande passionnée de foot il y a une vingtaine d'années. J'ai été longtemps abonnée au Parc des Princes. Je vivais pour le foot, j'allais en Italie pour voir des matchs. Voilà, ça rythmait un peu ma vie. Et puis ça fait un peu plus d'une quinzaine d'années que petit à petit je me suis désintéressée. Parce que je me suis de plus en plus ennuyée devant le foot. Et donc, c'est vrai que quand je regarde à nouveau le foot aujourd'hui, eh bien souvent, ça me confirme que je n'ai pas acheté d'abonnement et que ce sport est, à mes yeux, devenu très peu intéressant. Voilà, c'est juste un témoignage de quelqu'un qui aimait vraiment énormément le football il y a, 15-20 ans.
Voilà, Nathalie Yaneta, elle est Florence, un peu dure, Florence s'ennuie.
Mais en réalité,
mais elle est un peu dure, mais c'est vrai que, est-ce que le PSG n'a pas tout écrasé en
Alors, il y a ça, en France en l'occurrence. Mais après, il y a un truc quand même, il y a 15-20 ans, on ne voyait pas autant de matchs qu'aujourd'hui.
Oui.
Notre plaisir aujourd'hui, il est aussi émoussé. À un moment, il n'y a pas une journée où, si vous allumez une chaîne telle qu'elle soit, vous ne pouvez pas voir de foot. C'est un problème. Il faut aussi raréfier un tout petit peu tout ça. Ce dont parle Florence, c'est ma génération aussi. Franchement, vous pouviez voir quelques extraits de matchs de championnat européen il y a 20 ans à l'équipe du dimanche. C'était les meilleurs moments des meilleurs championnats. Vous aviez le championnat de Ligue 1, certes. Vous aviez quelques affiches européennes, mais il y avait pas autant de foot qu'aujourd'hui. Et donc, notre plaisir, il s'est aussi un petit peu émoussé, parce qu'à un moment donné, il y a moins de désir.
Pierre Maes, vous qui êtes économiste du sport, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est exactement le modèle économique de la France ? Et en quoi il est différent de celui de ses voisins ? Parce qu'effectivement, on disait que les droits de diffusion, ça représente à peu près 70%, vous
60%
disiez 60%
Pierre Maes.
Ça
dépend vraiment des clubs. Hein.
Expliquez-nous, Pierre Maes.
D'accord. Alors, si vous permettez, je vais d'abord revenir sur ce qu'ont dit les auditeurs, Philippe et Florence,
oui.
Parce que c'est fondamental, en fait. Je parlais d'un déni sur l'évolution du rapport de force entre le diffuseur et la Ligue. Il y a un autre déni. L'autre déni, c'est le déni qui est lié au piratage. Ici, on vient d'entendre Philippe. Dans sa bouche, il se définit lui-même comme un brave couillon parce que il s'est abonné à Canal, puis il a dû s'abonner à Mediapro, et maintenant terminé, il en a marre et donc il déclare sur votre antenne qu'il est abonné à l'IPTV.
Ce qui est quand même
illégal. Donc
on est d'accord.
Aujourd'hui, on est arrivé à quelque chose en France que on n'a encore jamais vu ailleurs en Europe, qui est ce bashing, ce DAZN bashing, le bashing du diffuseur qui en prend plein la tronche. Je viens de l'entendre dans vos bouches également, et une incitation au piratage complètement décomplexée. On n'a jamais vu ça ailleurs. Le public exprime finalement un ras-le-bol de manière étonnante et inédite.
Alors écoutez, juste je fais une parenthèse, Pierre Maes, parce que j'ai sous les yeux un message que nous a laissé Paul. Il dit « J'ai un abonnement IPTV, donc illégal, ce n'est pas bien et c'est illégal, mais je peux facilement suivre tous les matchs de mon club préféré sur tout support, y compris quand je suis à l'étranger, sans jongler avec quatre diffuseurs différents. »
Ben oui, l'IPTV, c'est la bombe atomique, c'est la panacée. En fait, pour être tout à fait précis, c'est un service absolument extraordinaire qui vous permet de regarder toutes les chaînes du monde pour des tarifs qui vont de 5 à 10 euros par mois.
Alors,
c'est imbattable.
Le piratage, il n'y a pas qu'en France non plus, Pierre Maes.
Absolument.
Ça existe aussi à l'étranger, donc, et l'Espagne notamment se bagarre fortement contre le piratage. Mais est-ce qu'il y a une spécificité? Parce que nous, ça a l'air d'être dans des proportions assez colossales. On dit que parfois sur un OM PSG, il peut y avoir presque d'un téléspectateur sur deux qui n'a pas payé.
C'est DAZN
Mais je pense qu'il n'y a pas de spécificité française, que le piratage est partout en Europe. Et le déni, il est exactement finalement comme il l'a été pour l'industrie de la musique, à un moment donné. Le déni est de dire, nous allons... D'abord, le déni, c'est de dire le piratage n'existe pas. Ici, dans une deuxième phase, nous allons combattre le piratage et nous allons gagner. Mais non, le piratage va gagner, comme il a gagné pour la musique. Et il s'agira de repenser des business models complètement différents ou plus vraisemblablement se passer carrément des droits télé tels qu'on les voit aujourd'hui. Et donc c'est là que je rebondis.
Les droits télé sont dépassés et là on en vient au modèle économique.
Voilà, c'est là que je rebondis sur votre question. Oui. À combien représentent les droits TV dans les budgets des clubs? En moyenne, en fait, en Europe, c'est 50%. C'est énorme, c'est absolument gigantesque. Ça veut dire que la moitié des transferts et la moitié des salaires des joueurs sont financés par l'argent des télés. Eh bien, c'est, si le piratage gagne, comme je le dis, et j'en suis sûr, eh bien, les clubs et les joueurs devront se passer de cet argent.
Alors, il y a un modèle dont Pierre n'a pas parlé, c'est le modèle allemand. En Allemagne, c'est 30% de télédépendance, hein, puisque c'est comme ça qu'on qualifie cette dépendance au droit télé. C'est dans la loi. Et la Bundesliga, pour le coup, elle a vécu son média pro. C'était à la fin des années 90. Kirsch débarque en mettant des Deutsche Mark à
n'en plus. C'est le patron d'un grand groupe de presse.
Oui, qui était le plus puissant à l'époque, hein, vraiment, fin des années 90. Il met des Deutsche Mark à n'en plus finir sur la table et il plante le football allemand qui, au début des années 2000, doit donc tout reconstruire. Et là, ils partent de zéro. C'est-à-dire qu'un patron d'une ligue très puissante qui rassemble la première division, la deuxième division, une partie de la troisième, se met à travailler avec tous les clubs autour de la table, leur demande de repenser le modèle de A à Z, c'est-à-dire les stades, la formation, le style de jeu, la fan experience pour les équipes qui viennent, pour les familles qui viennent au stade. Ils trouvent un diffuseur, Sky, avec qui ils font un partenariat pour développer un peu à l'image de ce qu'avait fait Canal dans les années 80 avec le football français. Là, c'est avec la Ligue allemande. Et petit à petit, le produit s'améliore. Et comme le disait Pierre, à un moment donné, quand votre produit, il est beau, parce que les stades sont pleins, parce qu'il y a du spectacle, parce que ça y est, il y a un nouveau jeu, parce qu'il y a un nouveau style, parce qu'il y a une Coupe du Monde qui est passée par là et qui a été rafraîchissante et qui a réussi, ben, au bout de 6-7 ans, un autre diffuseur commence à se dire, et pourquoi pas s'intéresser aux droits de la Bundesliga. Et depuis 10 ans seulement, il y a deux diffuseurs, dont DAZN d'ailleurs, en Allemagne, et ils ont dépassé le milliard. Donc, il y a aussi une question de fonds et de modèles économiques que les clubs français n'ont pas voulu voir ni travailler.
Nicolas Xismartoff.
C'est difficile de rajouter quelque chose parce que c'est tellement évident à observer.
Oui, mais ça prend des années quand même. Le modèle allemand, il a mis des années.
Oui, ils ont mis 10 ans à s'en remettre, mais c'est la vie.
Là, vous soulevez un point intéressant. Il n'y a pas de solution miracle à l'heure actuelle. Hein. Je veux dire, même si Vincent Labrune démissionne et qu'on met quelqu'un d'autre, le problème, il est structurel, c'est l'ensemble des clubs, c'est grand.
C'est ce que dit Philippe Diallo, hein, d'ailleurs.
Philippe Diallo, il est aussi dans le système depuis longtemps, donc il n'a pas découvert
ça. Il reconnaît que c'est un problème structurel.
Mais ça, oui, c'est bien.
C'est aussi de sa responsabilité, c'est ça que vous voulez dire.
Il a comme une petite tutelle sur la Ligue.
Oui,
et, mais il a, un droit de regard sur la Ligue, il a refusé la tutelle. Donc pour l'instant, on n'avance pas. Mais en fait, on en a pour des années à se reconstruire. Malgré tout, je répète quand même que le foot en France est le sport numéro un, le plus pratiqué, le plus aimé, le plus regardé, quand même. Et que. Il ne faut pas non plus noircir à l'inverse le tableau. On n'est pas en train de cesser d'aimer le foot, mais c'est le football professionnel français. Quand je dis reconquérir les cœurs, c'est une façon un peu excessive de parler, parce que les stades sont pleins. Mais c'est vraiment arriver à rendre, entre guillemets, le peuple français fier de son football professionnel dans son ensemble, ce qui n'est pas le cas. Et c'est vrai que PSG, par exemple, à la fois, je comprends la fierté des supporters parisiens.
Donc vous êtes.
Je suis par ma famille. Je suis aussi Racing Club de Strasbourg. Oui. Mais c'est pour revenir. Je comprends la fierté des supporters parisiens, mais cette domination absolue, économique, puissance sportive et compagnie.
Quand ça tue aussi la concurrence. Regardez la compétition.
Marseille cette année joue bien. Marseille. René. Oui. Mais ils sont à 10 points du Paris Saint-Germain. Enfin,
le championnat n'a pas commencé qu'il est joué en France. Et ça, ça fait aussi.
Mais ça, c'est le problème.
Dire, on a dit en Allemagne, il y a eu le Bayern, mais le Bayern,
il
remporte. Mais l'année dernière, c'est Dortmund qui est en finale.
Leverkusen, qui l'année dernière a fait une saison formidable. Donc, c'est pas vrai. Il y a vraiment que la France qui a cette domination où le PSG joue et le PSG est champion. Il y a eu deux accidents, c'était Lille et Montpellier.
Et ça tue le suspense. Donc, quelque part, on n'a pas envie de regarder. Je reviens à Florence qui s'ennuie.
Il y a City qui domine, mais il y a toujours un suspense. De fin, il y a une course de fin, comme en Espagne, comme en Italie. Et là, on suit tous Arsenal, Liverpool, même si on imagine qu'Arsenal, une fois de plus, va passer à côté. Mais c'est pas grave, il y a un suspense. En France, le suspense, il existe. C'est qui va descendre. Alors ça, on a un grand amour de la relégation.
Qui va finir deuxième.
On a un grand amour. Mais j'adore les gens qui se battent pour survivre et pour rester en Ligue 1. C'est génial. Mais c'est ça, quand même, notre spécificité. Il faudrait la mettre en valeur, d'ailleurs, je pense.
Pierre Maes, qu'est-ce que vous en dites?
Moi, je voudrais revenir aussi, comme Nicolas vient de le faire, sur le témoignage de Florence et Nathalie, tu l'as abordé aussi, en parlant très très justement de rareté. Aujourd'hui, il y a un problème plus global que le problème français au niveau du foot, et c'est très intéressant d'avoir un témoignage comme celui de Florence, c'est que effectivement, il n'y a pas, comment on va dire, il n'y a pas une seule autorité qui gouverne le foot au niveau mondial. Il y a surtout deux autorités, la FIFA et l'UEFA, qui se livrent une concurrence incroyable et qui bouchent les calendriers en organisant des compétitions dont personne n'a strictement rien à faire. Mmh. Et ça, ça tue le foot effectivement parce que il y a plein de matchs de très mauvaise qualité qui pollue nos antennes. Et donc, là, il y a un danger plus global.
Et 90 minutes, c'est long dans ces cas-là.
Ah, exactement. Il y a un autre point. Il y a un autre point que Nicolas abordait en parlant de produits premium, ou plutôt en disant que la Ligue 1 n'est pas ou plus un produit premium. C'est clair que dans cette évolution où les droits baissent, où le piratage prend de plus en plus d'ampleur, où il devient de plus en plus difficile de trouver des diffuseurs prêts à miser des centaines de millions sur le fait de recruter et de fidéliser des abonnés, eh bien, il y a quand même encore des compétitions qui parviennent à garder cette attractivité, qui parviennent à séduire encore des diffuseurs. Ce sont bien sûr les deux principales, les deux super ligues, on va dire, en Europe. C'est la Ligue des Champions d'une part et la Première Ligue d'autre part.
Alors la Première Ligue, elle est valorisée à 4 milliards.
Dont 2 milliards à l'international,
ce qui est énorme. Voilà. Alors, on joue pas dans la même catégorie. On est en national, nous.
Se crée alors. Non mais voilà. Donc justement, se crée alors un énorme fossé entre ces deux compétitions et les autres. Et donc, ce fossé, il est déjà grand aujourd'hui et il va faire que s'agrandir. Ce qu'on voit aujourd'hui avec le foot français, qui tente de se dépatouiller dans ces crises de droits télé, c'est que en fait il s'enfonce dans la concurrence avec les autres ligues européennes pour tâcher de survivre un petit peu à l'ombre de la Ligue des Champions et de la Première Ligue. Eh ben il s'enfonce.
Et il va continuer à s'enfoncer, selon vous?
Il perd du terrain s'il n'y a pas de changement majeur.
Alors un changement majeur, ça ressemblerait à quoi, selon vous?
Oh, il faut un changement majeur à la gouvernance et réintroduire du sérieux et du professionnalisme.
Et de la transparence, parce qu'il y a une confiscation aussi. Ça fait plusieurs années qu'à la fois à la Fédération et à la Ligue, les acteurs qui sont à l'intérieur de ces instances considèrent que certains décident seuls à quelques-uns, sans en référer aux autres, et ça crée non seulement des frustrations, mais du coup des mises devant le fait accompli qui ne vont pas encourager le fait de repartir tous ensemble à se mettre sur la table, autour de la table, et à travailler vraiment en profondeur.
On fait un dernier petit détour par le Standard avec Guilhem, bonsoir.
Oui, bonsoir, merci de prendre ma question, sûrement un petit peu naïve, mais depuis le début, vous parlez que le diffuseur est un petit peu en position de force pour négocier avec la Ligue de football. Or, ils ont répondu à un appel d'offres, ils ont un contrat avec la Ligue, et du coup, je me demandais à quel point ils pouvaient ne pas honorer ce contrat ou le renégocier, et est-ce que c'était pas un petit peu fausser le marché de réagir comme ça?
Alors, la renégociation du contrat, c'est bien le cœur du sujet, parce qu'encore une fois, un média pro et DAZN, c'est très différent. MediaPro avait une défaillance financière.
Ce qui n'est pas DAZN. DAZN, on considère que c'est le Netflix du sport.
Hein. C'est le cas. DAZN pourra payer. Eux, ce qu'ils veulent, et Pierre l'a bien expliqué, c'est renégocier un contrat qu'ils ont signé cet été et dont ils considèrent que, voilà, on leur aurait menti, d'où le procès pour déloyauté qu'ils font à la Ligue sur la qualité du produit. DAZN a une clause de sortie qui avait été signée dès le mois d'août, au moment de la signature du contrat, décembre 2025. S'ils n'atteignent pas 1,5 million. Donc déjà, j'explique, je ne vois pas comment ils vont les atteindre dans les 7 mois, si je calcule bien, qui nous séparent de la fin de l'année. Donc ils pourront partir sans pénalité. Et sinon, eux, ce qu'ils veulent, ils disent, nous, on veut rester en renégociant le contrat. Soit ils arrivent, la Ligue arrive.
Mais vous pensez vraiment qu'ils auront l'intention de partir?
Mais ils peuvent, c'est ça le problème.
En tout cas, ils ont une fenêtre sans pénalité fin décembre 2025.
Et puis rien ne les en empêche.
C'est, Nicolas.
Je pense qu'ils peuvent très bien. DAZN peut très bien vivre sans la Ligue 1. C'est encore une fois ce qu'il faut expliquer, c'est que avoir la Première Ligue, avoir la Bundesliga, c'est important. Avoir bien sûr la Liga comme beIN là en France, c'est important. Mais un groupe comme DAZN International peut très bien exister, vivre sans la Ligue 1.
Alors on en revient à notre question du début de l'émission. Qui? Alors qui, si par exemple demain il n'y a
mais
pas d'Azur?
Justement, c'est bien qui l'angoisse existentielle actuelle,
alors,
c'est personne.
C'est qui et combien? Parce qu'on l'a dit, qui, ça peut être Canal, mais encore une fois à un prix qui sera extrêmement bas. Et sinon, il y a cette histoire de chaîne que la Ligue.
La Ligue avait essayé de monter une chaîne.
Ça sera coûteux.
La LFP+. Alors, on a un problème de trésorerie au départ, c'est que les clubs, vous l'avez compris, ils attendent cette manne financière parce qu'ils en ont besoin, y compris pour payer le salaire. Je ne parle même pas des joueurs, hein, je parle des salariés qui travaillent dans les clubs. Il y a beaucoup de gens qui sont très inquiets dans les clubs et qui ont des raisons d'en vouloir à leurs responsables d'avoir été à ce point dans le déni. Et comment est-ce que vous amorcez la pompe avant d'avoir des abonnés ? Là, il va y avoir une période très compliquée si vous lancez votre plateforme avant qu'elle ne fonctionne, qu'elle ne marche, que vous ayez des abonnés, donc des revenus et que vous puissiez redistribuer. Mais ce système-là de plateforme, c'est encore ce qui est un petit peu dans les tuyaux. On n'arrive pas bien à savoir le niveau de maturité de ce projet, ni même si sur un marché comme la France, ça peut fonctionner.
Sachant que dans ce cas-là, le mercato va être sympa, parce que les clubs vont tous être amenés à vendre beaucoup s'ils veulent survivre.
Ils ont déjà beaucoup vendu cet hiver, hein, c'est le championnat qui a le plus vendu.
Les transferts, ça représente combien sur le financement des clubs à peu près ?
Là aussi, ça va dépendre de vos clubs de formation, mais là, cette année, ça a été une manne. Ils se sont serrés la ceinture.
30 ou 40, je crois, 30 ou 40.
Ouais, ils se sont serrés la ceinture.
De Pierre Maes, hein, qui sont...
Alors, si vous permettez.
Rapidement, parce qu'on arrive à la fin de l'émission.
Ouais, et je vais rebondir sur la question de Guilhem, sur les chances de d'Azur.
Vite, très vite, parce qu'on a quelques secondes.
Le risque sur la LFP est clairement de se retrouver avec un DAZN qui veut renégocier et puis derrière avec plus personne et l'obligation pour eux de lancer cette chaîne propre qui est un risque majeur.
D'accord. On va en rester là. En tout cas, on a compris que l'avenir était bien bouché. Hein.
Pour le foot pro, pour le foot,
ça va aller. Merci beaucoup Nathalie Yaneta, Pierre Maes qui était en direct des locaux de nos confrères Dissinor. Merci à vous aussi, Nicolas Smartoff. Dans un instant, après 20h, les petits bateaux, avec la question de Maya, 8 ans.
Bonjour, je m'appelle Maya, j'ai 8 ans, et je voudrais savoir si ça existe des pays où c'est interdit de se faire tatouer. Merci.
Elle a déjà une petite idée derrière la tête.